Bonjour à tous. Je suis Caroline Dubois, votre hôtesse pendant cette seconde édition du Sommet de la Réussite. Si vous avez encore peur du changement, peur de faire des choix et que vous voulez vous faire confiance et vivre le lâcher-prise, cette conférence vous guidera. Si vous voulez manifester ce qui vous fait plaisir et réussir votre vie, écoutez ce qui suit. Je suis ravie de vous présenter la canadienne et merveilleuse José Gauthier, mieux connue sous le nom de Divine Copine, du site divinecopine.com. Celle-ci va vous parler de réussir sa vie. José est thérapeute énergétique, chuchoteuse d'âme et canal de lumière depuis 16 ans. Elle est passée de la maladie et la dépendance à la guérison et la réussite. L'ensemble de ses vidéos totalise plus d'un million de vues sur YouTube. Mariée avec deux enfants, sa mission est d'aider les autres au bien-être et à la réussite. Elle voyage du Canada à l'Europe pour enseigner et partager la réalisation de soi. Ses mentors sont les anges et les êtres de lumière. José aide à solutionner ce qui nous empêche de réaliser notre plein potentiel et nous affranchir de la peur de changer. Aujourd'hui, elle veut nous transmettre des outils pour se prendre en main et générer ce dont nous avons besoin pour être heureux et épanouis sur tous les plans de notre vie, pour réussir sa vie. S'il vous plaît, joignez-vous à moi pour accueillir José Gauthier. Bonjour José.
Bonjour Caroline, c'est une joie de me retrouver avec vous.
Alors, dis-moi, José, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? C'est très global tout ça.
Oui. Réussir sa vie pour moi, ce n'est pas nécessairement devenir célèbre. Ce n'est pas obligatoirement devenir quelqu'un d'important. C'est être aimé, être bien dans sa peau, être heureux, avoir une résonance douce avec notre vie. C'est quelque chose qui nous permet de vibrer dans la joie, c'est trouver notre voie et se dire que le matin, quand on se lève, on est heureux d'aller au travail et de rayonner notre passion. C'est quelque chose de doux qui fait qu'on trouve notre place dans notre vie et qu'on peut diffuser et partager autour de soi.
Et donc, comment tu penses qu'on peut y arriver alors? Dis-moi un petit peu ce que toi tu préconises.
J'aime beaucoup ce que Saint-Exupéry disait. Vivre, c'est naître lentement. Il faut y aller tout en douceur. Il faut se libérer de peur. Il faut, je pense, se donner le droit de voir ce qui est là dans notre vie. Générer un mouvement d'intégrité, rencontrer ce qui nous amène dans la peur du changement, pour laisser aller tout ça. Et c'est l'ego qui nous envoie cette peur. Pour lui, qui veut contrôler pour assurer notre sécurité, il génère souvent des mécanismes d'auto-sabotage. Il préfère donc garder le contrôle et cette peur, selon lui, est dans l'ordre des choses. Mais on peut arriver à laisser aller bien des peurs. Un mécanisme, un moyen de faire que j'aime beaucoup, c'est de se savoir habité par notre réalisation. Se sentir comme une femme enceinte. Savoir que notre être réalisé est là en nous. Apprivoiser l'idée déjà que nous sommes habités par notre être réalisé. Un peu comme, je prendrai l'exemple du chêne qui se trouve déjà en potentialité dans le gland. En se sachant enceinte, habitée par notre être réalisé, on y va tout en douceur. Et quand les peurs viennent et se pointent le bout du nez, on arrive à, je dirais, déposer un mouvement qui génère beaucoup plus de facilité. J'aime bien cette idée d'être enceinte de notre être réalisé, de ce que l'on veut accomplir, parce que il n'y a plus de distance entre ce à quoi j'aspire, ce que je veux manifester, et moi. En fait, les deux ne sont qu'un. C'est ce qui fait que la peur a moins de prise, parce que on a moins de blocages qui se mettent en place. Quand ça nous habite, ça devient normal, ça devient aisé. Ce qui fait que cette image de se savoir habité par ce que l'on désire, ce que l'on veut manifester, et donc tout ce que l'on met en place en direction de cela, ça fait partie de notre chemin, ça adoucit le mouvement des peurs. Donc pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup été utile. Il y a certaines peurs qui sont bonnes, qui sont importantes, des peurs qui vont nous empêcher d'avoir mal, mais il y a d'autres peurs qui génèrent trop de retenue. Et c'est celles-là qui sont amenées à être limitées, dissoutes par cette notion de ce que je désire manifester, ce que je veux être, habite déjà en moi, même si c'est tout petit. Comme la femme enceinte qui a 2 mois ou 3 mois de grossesse, il n'y a pas grand-chose qui paraît, son petit ventre n'a pas grossi, mais elle reconnaît que c'est là. Voilà.
Ok, alors comme je suis dans ce mouvement de développement personnel et que je m'intéresse à plein de choses, j'entends ce terme souvent, cette histoire d'ego. Alors peux-tu donner une définition pour des gens qui découvrent ce sommet et quand on leur parle d'ego, qu'est-ce que tu entends par ego, toi, par rapport à l'être réalisé? Qu'est-ce que c'est? Tu dis c'est que l'ego nous envoie de la peur. C'est quoi l'ego?
C'est cette partie de nous qui désire assurer la sécurité de notre être. La totalité de notre être, l'ego dit, c'est moi. Et pour lui, il est dans l'ordre des choses de gérer, superviser, orchestrer, de façon à avoir toujours la main mise sur tout. Donc, assurer cette sécurité de notre être. L'ego est très dans le mental, très dans le cartésien. Il est donc vraiment l'opposé du cœur et de l'amour qui nous permet de rejoindre le vrai en nous. C'est un outil qui est important. Je ne pense pas que, comme certains l'enseignent, qu'il faille tasser l'ego de côté et le repousser, le rejeter. Je le considère comme faisant partie de qui nous sommes. C'est un outil, mais il est important donc qu'il ne soit pas le maître. Voilà. Il fait partie de ce que nous sommes, donc il est là pour nous aider, dans ce sens que il nous donne, je dirais, les motivations, les coups de pouce, les défis pour arriver à nous dépasser. Oui, c'est un peu comme ça que je le vois.
Oui, super, je te remercie. Donc, comment savoir si on est sur la bonne voie de cette réussite et de cet être réalisé, même s'il est en tout petit en nous, comme
oui.
un fœtus de 2 mois d'être réalisé en nous?
Oui, on sait qu'on est sur la bonne voie quand on entre en résonance avec ce qui se met en place dans notre vie. On y trouve de la joie. On vit le succès dans chaque expérience, peu importe que ce soit des expériences faciles ou difficiles, qu'elles soient joyeuses ou qu'elles soient tristes. Dans le ressenti, chaque expérience devient simplement un pas de plus vers notre réussite. On ne perçoit plus des coups de chance ou des malheurs. Tout devient alors des outils pour la réalisation de notre réussite. Ça fait partie de notre chemin, tout simplement. De toute façon, n'oublions pas qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il n'y a que l'expérience en elle-même. C'est notre ressenti, nos pensées qui font que l'expérience devient bonne ou mauvaise. En résumé, quand nous sommes en direction de notre réussite, on vit le succès en cours de route. On ne se contente pas de le vivre seulement à la ligne d'arrivée.
Ça, c'est vrai. Je suis très d'accord. As-tu des outils à nous partager pour nous aider à aller dans cette dans la direction de cette réussite, justement, pour pouvoir apprécier le bon et le moins bon et en faire une expérience de réussite permanente?
Oui. Je pense que l'acceptation vraie, c'est très, très, très important. Il y a trop de gens qui acceptent en mode de soumission. Ils baissent la tête et ils se disent qu'ils vont faire avec. Et ça, ce n'est pas constructif. La vraie acceptation est libératrice. Elle nous permet de nous réaligner avec la vie. Et elle génère une paix intérieure magnifique. Dans de telles conditions, on trouve bien plus facilement notre justesse et tout se met en place avec aisance. Je vous parle un petit peu des quatre étapes que je considère très importantes pour justement vivre cette acceptation vraie. Alors, la première étape, c'est le constat de ce qui est. Ensuite, la seconde étape, on donne la permission à ce qui est d'être le temps d'un instant. Ensuite, pour la troisième étape, eh bien, on fait un choix. On affiche notre intention et tout ça par amour pour soi. Puis finalement, la quatrième étape, on passe à l'action, on se responsabilise, on fait ce qu'il faut pour manifester cette intention, ce qui prime finalement par amour pour soi. Alors, on peut prendre un petit exemple ici, juste pour imaginer un petit peu. Alors, imaginons que vous avez un confrère de travail qui vous manque de respect. Bon, vous avez essayé de le confronter, de régler ce problème, mais rien n'a fonctionné. N'oublions pas que ce à quoi je résiste persiste. Donc, bien souvent, l'acceptation nous permet le lâcher prise pour que tout s'apaise. Alors, je reviens à l'exemple. On va mettre ici un mouvement d'acceptation. Donc, votre confrère de travail vous manque de respect. La première étape, le constat de ce qui est. Bon, imaginez que vous êtes dans la situation. Alors, donc, on joue ensemble, on met l'exercice en place. Pour être dans le constat de ce qui est, on regarde autour de soi. Ici, je vous invite à regarder le sol qui est là, tout à côté de vous. Vous constatez le sol. Il est comment? C'est un plancher de bois? Est-ce qu'il y a du tapis? Est-ce qu'il y a des tuiles? Ou peut-être êtes-vous dans le jardin, sur l'herbe? Alors ici, vous êtes dans le constat. Il n'y a pas d'analyse, pas d'étiquette, pas de jugement. Vous voyez et constatez, c'est tout. Ici, on ne prend rien de façon personnelle, pas d'émotion. Tournons ce constat vers votre confrère de travail. Vous pourriez dire ici, il me manque de respect. C'est un constat. Il n'y a pas d'émotion. Vous ne faites que constater ce qui est là. Il vit des souffrances intérieures pour agir ainsi. C'est encore un constat. Comme le plancher tout à l'heure, comme le sol là où vous êtes. Même chose, vous constatez ce qui est. Très bien. Deuxième étape. Ici, donner la permission à ce qui est d'être. Alors, ce confrère est ce qu'il est. Ce que vous avez constaté tout à l'heure lors de la première étape. Comme le sol sur lequel vous vous trouvez, vous donnez ici la permission à ce qui est d'être le temps d'un instant. Je donne la permission ici à mon plancher. Ici, dans mon cas, c'est un plancher de bois. Et je dis, plancher de bois, je te constate, et le temps d'un instant, je te donne la permission d'être ce que tu es, un plancher de bois. C'est la même chose pour votre confrère de travail. Je constate ce que tu es, et le temps d'un instant, je te donne la permission d'être ce que tu es. De toute façon, il est déjà ce qu'il est. Donc, ce n'est pas trop forçant. Vous lui donnez simplement la permission d'être. Et ça, c'est pour vous que ça se fait. Je dis le temps d'un instant parce que c'est cette étape qui fait la magie de l'acceptation vraie. En fait, quand on est dans juste le temps d'un instant, tout d'un coup, il y a un relâchement intérieur. C'est comme si c'était moins menaçant. On ne sera pas appelé à porter cela toute la journée ou pour la vie. C'est que ici maintenant, le temps d'un instant. Donc, pour ce qui est de votre confrère de travail, c'est la même chose. Ici, le temps d'un instant, je te donne la permission d'être ce que tu es. Alors, toujours dans le constat, sans jugement. Pour la troisième étape, il s'agit donc de faire un choix par amour pour soi, par amour pour les autres, et donc d'afficher notre intention. Qu'est-ce qui prime ici? Qu'est-ce qui est important pour moi? Eh bien, dans ce cas, ça serait d'être respecté, respecté par ce confrère de travail. Alors, j'ai fait mon choix, je sais ce qui est important pour moi. La quatrième étape, eh bien, on passe à l'action. Et c'est pour manifester notre intention. On doit se bouger, se responsabiliser, faire quelque chose finalement. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour être respecté par ce confrère de travail? Eh bien, je peux être dans le détachement et le laisser vivre son expérience. Je comprends en fait qu'il me renvoie des jeux de miroir et je choisis de me respecter en ne nourrissant plus cette situation. Je choisis donc de ne pas prendre personnel et je laisse aller. Son attitude plus tard sera remarquée fort probablement par l'entourage au travail et éventuellement il se fera remettre à l'ordre par un supérieur et tout rentrera dans l'ordre. Voilà, tout le temps de ce travail, il y a j'appelle ça un travail mais c'est plus léger, tout le temps de ce vécu dans l'acceptation vraie, il y a un grand mouvement de relâchement, de lâcher prise qui se met en place. Et ici, ce monsieur, ce confrère de travail, ne me menace plus parce que je lui donne le droit d'être ce qu'il est, le temps d'un instant, on s'entend. Et que j'en tire des bienfaits. Ici, j'ai compris que j'avais à me respecter. C'est une démarche qui nous permet de laisser l'autre là où il est et de nous donner notre droit d'être à l'aise, heureux, épanoui. Et alors, étant donné que nous sommes dans un bel espace intérieur, eh bien, évidemment, le reste se met en place beaucoup plus facilement. Les solutions viennent beaucoup plus facilement. Alors, eh bien, tout rentre dans l'ordre, voilà.
Ok, ça semble super, mais peut-on vraiment, avec cette approche, accepter tout ce qui se présente dans notre vie?
C'est pas toujours évident, hein. Il y a des trucs, des éléments, des souffrances qui se pointent le bout du nez et qui sont vraiment difficiles à accepter parce que c'est vraiment trop déchirant. Bon, dans cette éventualité, souvent, c'est le pardon qui est nécessaire. Il arrive aussi qu'on soit obligé de laisser aller par le biais du pardon, avant d'aller en direction de l'acceptation. En fait, le pardon est libérateur. Il signifie paix, tout simplement. Le pardon, c'est se libérer de la souffrance et choisir de mettre en place une action par amour pour soi. C'est aussi de faire le choix de se donner la paix et de donner la paix à celui qui nous a offensés. J'aime bien parler du pardon en jouant un petit peu avec le mot « pardon ». Et je dis « par le don de l'amour, je me libère et je te libère ». Donc, le pardon peut être une étape importante avant d'avoir accès à l'acceptation. J'aimerais, si tu me le permets, Caroline, mettre en place une petite visualisation ou méditation pour aider justement à pardonner.
Oui, bien sûr. J'ai juste envie de partager avec toi que il y a des gens qui disent aussi que dans le pardon, c'est redonner la part à l'autre. De ce qui lui appartient, quoi, tu vois.
Oui,
dans le don, c'est donner la part à l'autre, oui, qui lui appartient, de lui rendre un petit peu, c'est un petit peu ce que ce que tu disais, c'est de constater que voilà, ça, ça lui appartient, une partie m'appartient. Mais bien sûr que tu peux nous offrir une méditation pour aider à pardonner, évidemment.
Oui, j'aime bien cette notion, comme tu disais, quand on met l'emphase sur le don. Je veux y revenir juste 2 secondes parce que j'aime beaucoup la façon dont tu en parles. Et ce don est toujours mis en place par une pulsion d'amour. Et je sens, en fait, pour moi, c'est dans ce don, quand on veut donner un cadeau, quand on offre à l'autre, il y a toujours un mouvement d'amour. Et je pense que ton approche, la façon dont tu as parlé de ça tout à l'heure, pour moi, c'est, oui, je perçois le pardon comme un cadeau finalement à l'autre et puis à soi. Alors, j'aime beaucoup. Ok, alors je reviens à cette méditation. Tout à l'heure, je disais visualisation ou méditation parce que selon les gens, des fois, enfin, il y en a qui ne peuvent pas se permettre d'aller en direction d'une méditation parce que justement la souffrance est tellement grande, tellement prenante, tellement insistante à l'intérieur. Donc, par moment, une simple visualisation peut faire l'affaire au début. Mais pour ceux qui ont de la facilité et qui sentent que la méditation, ça leur convient, mais ça sera ça. Donc, ce que je vais vous offrir peut être mis en place, que ce soit simplement en visualisation ou en méditation. Vous y allez avec le comment ça vous convient, tout simplement. Alors, ici, ce qu'il est important de savoir, c'est que dans cet exercice, les mots que je vais mettre en place ne sont pas nécessairement les mots les plus parfaits pour vous. Je vais vous inviter à prendre l'exercice et ajuster. Si je vous propose une visualisation, une image, et en fait, ou des mots qui pour vous ne sont pas absolument, totalement en résonance avec vous, il est important d'y aller avec simplement ce qui vous convient. Je trouve que ça aide pour se retrouver dans le cœur et pouvoir aller en direction du pardon. Donc, si ce que je mets en place ici, ça vous convient très bien, autrement, vous ajustez avec les images ou les mots qui vous conviennent, tout simplement. Ok. Alors, je vous invite à d'abord vous détendre, vous respirer tout en douceur et ici donc peut-être trouver un élément que vous aimeriez accueillir pour donc déposer un mouvement de pardon. Alors je vous laisse vous recueillir une petite seconde. Très bien. Généralement, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. On a toujours des trucs, des éléments, des pensées, des culpabilités qui sont là, pas trop loin, et qui ont besoin d'être pardonnés. Alors commençons. Les yeux fermés, détendus, je vais vous inviter à visualiser un magnifique jardin. Un endroit somptueux, riche, un jardin garni de milliers de fleurs, avec un soleil scintillant, beaucoup, beaucoup de lumière, un endroit où il fait bon vivre. J'aimerais vous inviter ici à trouver soit un banc ou peut-être un petit muret ou un espace sur l'herbe. Et dans cet endroit, vous allez inviter ce qui est souffrant ou la personne qui vous a offensé. En fait, là où vous voulez déposer du pardon, c'est ce qui sera déposé ici, soit sur l'herbe, soit sur le banc. Il est important de générer un espace magnifique. Soyez généreux dans l'imagerie pour que ce soit vraiment de toute beauté. Très bien. Je vais vous inviter maintenant à vous transformer en un oiseau. Vous choisissez de devenir l'oiseau qui vous convient. Si c'est l'aigle pour la force, la puissance, très bien, ça fera ça. Si c'est le colibri pour pouvoir être tout petit et se cacher, ça sera ça. Votre conscience est donc maintenant dans cet oiseau. Et je vous invite à prendre votre envol et vous retrouver très 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 haut dans le ciel. J'aimerais que vous puissiez ici générer une distance sécure entre vous et ce qui vous a fait souffrir, cet offenseur. Et vous volez tout en douceur et constatez l'autre qui est en bas dans le jardin magnifique. Maintenant que vous avez une distance qui vous convient, à partir de votre cœur, tout en volant, tout en vous amusant dans le ciel, vous dirigez un magnifique rayon rose en direction de cette personne qui vous a offensé. Sans attente, par le biais d'un amour très très doux, un amour sans jugement, un amour inconditionnel, vous offrez juste ce rayon rose. On laisse la personne, l'offenseur, faire le plein de cette énergie d'amour. Vous prenez quelques instants pour laisser l'amour régler tout ça à votre place. Vous êtes donc dans une offrande, justement un don d'amour, comme on disait tout à l'heure. Très bien. Maintenant, je vais vous inviter à vous rapprocher un peu. Vous volez un peu plus bas. Vous pouvez peut-être aussi vous poser dans un arbre qui est un peu plus à côté de l'offenseur. Mais vous faites le pas de vous rapprocher de cette personne qui vous a offensé. Et vous recommencez à nouveau à diffuser un magnifique rayon rose en direction de cette personne qui vous a offensé. Et pour quelque temps, vous le laissez s'inonder de cet amour. Je vais vous inviter à vous approcher encore un peu plus. Si vous êtes toujours en vol, volez encore plus près. Si vous étiez dans l'arbre, venez vous poser à côté. Et à nouveau, vous dirigez un rayon rose en direction de cette personne qui vous a offensé. Vous êtes en train de lui offrir un cadeau d'amour. En fait, c'est l'amour le plus élevé en vous qui fait le travail. Vous n'avez qu'à laisser faire. Et vous constatez comme cette personne, cet offenseur, fait le plein et se sent lumineux, souriant. Vous vous rapprochez encore un peu plus. Vous êtes à proximité. Et je vais vous inviter à vous poser vraiment tout près, tout à côté de cet offenseur. Je vais vous inviter à entrer dans son rayonnement rose, dans sa bulle de lumière rose que vous lui avez offerte en cadeau. vous vous installez là, tout à côté, et vous faites le plein de cet amour à côté de cet offenseur. Lui installé là, vous, l'oiseau, tout à côté. Très bien. Si vous le sentez, je vous invite à déplacer votre conscience dans votre corps à nouveau. Et maintenant, donc, vous n'êtes plus oiseau, vous êtes vous, mais toujours à proximité de cet offenseur. Et si vous vous sentez à l'aise, je vous invite à lui donner un câlin. Toujours tout en douceur, dans ce grand rayonnement rose qui est là présent. Vous pouvez lui dire les souffrances qui sont là, partager, vous libérer de ce que vous avez sur le cœur, comme vous pouvez tout simplement savourer en silence. Très bien. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez revenir en direction de cet exercice, donc en visualisation ou en méditation, comme vous le sentez, aussi souvent que vous le voulez. Et ça permet de faciliter le pardon, de le vivre plus facilement, mais je dirais de l'intégrer surtout, oui c'est ça, de l'intégrer. Dites-vous bien que pour réussir à pardonner, tout se joue dans le cœur. Ce n'est pas en forçant et en passant par le mental qu'on y arrive. Le pardon se vit, et quand il est sincère, quand il est issu du cœur, il se met en place tout en douceur et il nous habite totalement.
C'est une histoire que de passer par le cœur. Moi, j'ai vraiment mis des années pour arriver à cette ouverture du cœur. Comment on sait que c'est juste par le cœur et qu'on ne fait pas justement... Moi, je l'ai longtemps fait avec le mental, moi, le pardon.
Oui. Alors, chère Caroline, si je te dis que tu n'es pas appelée à faire grand-chose de ta vie, que tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir, comment te sens-tu, légère ou lourde?
Plutôt lourde, hein?
Ben oui. Et si je te dis que tu es géniale et que tu as un potentiel magnifique, tu te sens légère ou lourde?
Plutôt totalement légère.
Oui. Alors voilà. Dans le cœur, on le sent comme ça. Il y a cette légèreté ou cette lourdeur qui nous donne de l'information au sujet de ce qui est vrai, de ce qui vibre en nous ou non. Quand c'est lourd, ça ne vibre pas avec notre vraie nature qui est joie. C'est notre nature toute puissante avec notre moi supérieur. Donc, quand c'est lourd, ça ne va pas en résonance avec ça. Donc, c'est faux. Il y a une dissonance. Quand on sent cette légèreté, comme tout à l'heure, comme je t'ai demandé, eh bien, cette légèreté, ça vibre avec notre vérité. Et ici, je fais référence à une vérité avec un V doré majuscule. Ça vibre avec notre essence, notre moi supérieur. Donc, quand il y a légèreté, c'est qu'il y a une résonance. Ça nous parle donc du vrai en nous. Cette évaluation par le ressenti, est-ce que c'est lourd, ce que je reçois, ce que je sens, ce que je comprends, ce que l'on me dit, ce que l'on me renvoie, ou est-ce que c'est léger? Ça, ça se pratique. Et c'est très, très dans le cœur que ça se vit. Je pense qu'au début, on peut travailler dans le concret. Comme par exemple, quand on regarde des photos de guerre, ben c'est pas agréable. On sent cette lourdeur parce que c'est pas en résonance avec le vrai en nous. Le vrai en nous vibre dans la joie et dans l'amour. Donc, on peut tout de suite percevoir au niveau du cœur cette lourdeur. avec les photos de guerre. Là, je prends un exemple quelconque. Hein. Et la même chose donc avec des photos de bébé, par exemple. Un petit bébé qui est mignon, on sent une légèreté qui s'installe dans notre être. Parce que les photos de bébé représentent plein de belles choses, il y a plein de beaux potentiels, il y a de la joie, et c'est en harmonie avec notre nature la plus élevée. Donc, ce ressenti lourd versus léger, ça nous connecte au cœur, ça nous permet de savoir si c'est vrai ou pas, si c'est bon ou pas. C'est souvent, j'aime bien aussi dire si ça goûte bon ou si ça goûte pas bon. Et c'est un ressenti qui nous habite tout partout. C'est, on le sait dans le cœur, dans notre être, comme tout à l'heure, tu as tout de suite eu de la facilité pour me dire si c'était lourd ou si c'était léger ce que je te proposais. Ouais. Mais en même temps, donc tu le sais dans ton cœur, mais ça t'habite dans tout ton être. Hein. Il y a une certitude qui se diffuse au complet dans tout ton corps, dans tes émotions, dans tes sentiments, dans ton âme. Ça t'habite finalement. Et en même temps, il n'y a pas de mots. En fait, cette lourdeur ou cette légèreté dont je parlais tout à l'heure, quand tu l'as ressenti, eh bien, il n'y avait pas de mots en tant que tel. C'était une certitude qui t'habitait tout partout. Un point, c'est tout. Et ben, pour arriver à ça, il est important de laisser notre tête au vestiaire. On ne peut pas passer par le mental, c'est directement dans le cœur. Et ce ressenti lourd et léger nous donne beaucoup d'informations si on est bien connecté ou pas, donc en relation avec le cœur.
En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais ça m'a mis tellement d'années à moi, et je sais que je ne suis pas la seule, j'en croise tout le temps, même dans mes clients, des gens qui... Voilà, le mental est là, il s'emballe, les gens n'arrêtent pas de penser, ils savent même pas se connecter à ce qu'ils ressentent, ils sont dans leur tête. Comment on fait pour être constamment et et revenir à ce ressenti issu du cœur quand on a eu toutes ces souffrances, etc.
Oui, quand les conflits sont vraiment très grands, très forts, c'est pas évident de se connecter au cœur comme ça. Je pense qu'il est bon, face au conflit, face à la souffrance, de faire un choix. On s'installe dans « est-ce que je veux avoir raison ?» ou « est-ce que je veux être heureux ?» Avoir raison, c'est en relation justement avec notre ego, on en parlait tout à l'heure. Et être heureux, c'est en relation avec notre cœur, avec l'amour en nous. On peut dire aussi est-ce que je veux vivre cela, donc le conflit, en tant que victime ou en tant que créateur? C'est la même chose. Parce que victime est en relation donc avec l'ego. Et créateur, qui veut toujours créer quelque chose de noble, de beau, créateur, c'est en relation avec le cœur, c'est en relation avec l'amour. Donc, tout ça se résume à ceci. Est-ce que, face au conflit, je veux avoir raison, m'obstiner, me battre, justifier, etc., etc., ou est-ce que je veux être heureux? Pour aller donc en direction du cœur, on choisit tout simplement d'être heureux, et c'est un choix. Nous pouvons être en paix à tout instant, revenir à ce choix donc. Et le fait de reconnaître qu'on a la possibilité de faire ce choix, c'est déjà énorme, c'est déjà très très grand. Mais dès qu'on est devant « est-ce que je vais avoir raison ?» ou bien « est-ce que je veux être heureux ?», tout de suite, il y a une ouverture en direction d'un mouvement de lâcher prise. Et on peut arriver à rejoindre le cœur par le biais de cette simple question. « Est-ce que je veux avoir raison ?» ou « est-ce que je veux être heureux ?» « Est-ce que je veux être créateur ?» ou « est-ce que je veux être victime ?» Voilà. Et puis, ben, faut toujours se dire que à chaque instant, ici, maintenant, c'est toujours le bon moment pour décider d'être heureux.
Ok. Tu viens de mentionner le lâcher prise, Joe. Eh bien, comment aussi on fait, parce que lâcher prise, justement, comment est-ce que je peux lâcher prise de mon côté victime? Oui, mais non, ça m'est arrivé. Oui, mais non, j'ai raison. C'est eux, les autres. C'est moi, j'ai raison.
Oui.
Comment est-ce que comment conçois-tu ce lâcher prise?
Oui. Alors, bon. Selon moi, la façon dont je vois tout ça, de lâcher prise, c'est un état d'esprit. On est ouvert et disponible à ce qui est là en nous. On décide de cesser de se battre et de vouloir tout contrôler. On voit ce qui est là et ce qui se passe avec lucidité. Et on permet à la vie de nous transmettre ce qu'il y a de mieux. Alors, je vous propose une image qui est très simple pour représenter le lâcher prise. Imaginons que vous teniez un objet bien fort dans votre main. En plus, imaginez que vous teniez l'objet depuis plusieurs heures, votre main restant alors de fortes et douloureuses crispations. Maintenant, vous lâchez prise. Vous ouvrez votre main et l'objet tombe au sol. Vous ressentez alors un grand soulagement, les muscles se détendent. C'est la même chose. Le lâcher prise, que ce soit avec la main qui était crispée sur l'objet ou que ce soit dans notre esprit, c'est la même chose. Les questions que l'on doit se poser à chaque fois, c'est tout simplement sur quoi est-ce que je dois lâcher prise? Qui lâche prise? Et comment lâcher prise? Alors, dans l'exemple de la main, les trois réponses sont simples. Sur quoi lâcher prise? L'objet. Qui lâche prise? La main. Et comment lâcher prise? En ouvrant la main. Alors, on peut appliquer les mêmes questions à notre esprit. Sur quoi est-ce que mon esprit peut lâcher prise? Pour avoir la réponse, regardez à l'intérieur de vous. Pour trouver toutes les choses qui vous pincent et qui vous angoissent ou qui vous font souffrir. Toutes les émotions douloureuses à l'intérieur de vous-même ont un lien avec quelque chose, quelqu'un ou une situation à l'extérieur de vous. Voilà ce sur quoi vous pouvez lâcher prise, ce qui génère donc un inconfort. Qui lâche prise? Eh bien, c'est votre esprit, c'est vous, c'est votre ego qui, dans ce cas-ci, est un outil. Peu importe le nom que vous décidez de donner, il y a quelque chose qui est sûr et qui est certain, c'est l'alchimie qui fait la richesse de qui vous êtes, qui va passer à l'intérieur de vous-même et qui va intervenir. Comme la main qui se crispe sur l'objet, votre esprit se crispe douloureusement sur la situation souffrante. Pourquoi il fait ça? Eh bien, c'est une façon qui est importante, parce que, qui est précieuse, pour conserver quelque chose qui, pour lui, a beaucoup de valeur. Il s'est attaché à ça. C'est comme si cette souffrance lui donnait plus de connaissances, de bagages, d'informations. Donc, lâcher prise devient un peu illogique, parce que pourquoi lâcher prise sur quelque chose qui peut peut-être me rapporter? Donc, il y a ce mouvement de crispation autour de la souffrance, même si c'est souffrant. Alors, ce qui est important de savoir ici, c'est que cette partie de nous qui gère cette crispation ignore même souvent qu'elle est capable de pouvoir laisser aller et que c'est dans son intérêt de laisser aller. Et ça, c'est à nous de présenter cette option. Ok. Alors, dernière question, faut pas que j'oublie. Comment lâcher prise? Eh bien, c'est en permettant, c'est le oui. Encore, on revient au choix. C'est en permettant un apaisement intérieur. C'est un travail à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça part de l'intention qui est là. J'ai l'intention de générer une facilité, une aisance. J'ai l'intention de me sentir mieux. Mon choix, c'est d'être bien. Alors, il y a tout de suite cette disponibilité pour cet apaisement, et dans le oui, on arrive à pouvoir lâcher prise. Mais tout commence par l'intention, par le choix.
Extra. Alors, avant de me dire, de résumer en deux mots à propos de la réussite, je voulais savoir, en préparant cette conférence, tu m'avais dit que le verbe est créateur, que quand on exprime les choses, eh bien l'univers ou la vie va manifester les choses exactement à la lettre de ce qu'on a exprimé. Est-ce que tu peux un peu développer ça?
Oui, oui, j'aime beaucoup. Alors, la vie ne dit jamais non. La vie, l'univers, c'est la même chose, est toujours en mode de oui, tout le temps. Donc, il est important de faire attention à ce que l'on vit, ce que l'on ressent et ce que l'on dit, ce que l'on exprime. Parce que la vie va toujours nous offrir dans ce oui exactement ce qu'il faut pour aller en résonance avec cela. Donc, je vous donne un exemple. J'aime bien l'imagerie de la photocopieuse. On reçoit pile poil exactement ce que on dit, ce que l'on dégage, ce que l'on ressent. Alors, imaginons que vous voulez avoir une voiture. Vous avez besoin de cette voiture, il y a donc un désir. Et vous dites, je veux une voiture. Très bien. Alors, l'univers reprend, mais à la lettre, et vous dit, très bien, continue de vivre l'expérience de vouloir une voiture. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention dans le comment on formule, comment on pense. En fait, vous ne voulez pas continuer de vouloir vivre l'expérience de désirer une voiture. Ce que vous voulez en tant que tel, c'est la voiture. Donc, il serait préférable dans cet exemple de dire « Je suis heureuse de savoir que bientôt, je dénicherai la voiture qui me convient. » Alors, l'univers dit « Très bien. » Continue d'être heureuse de savoir que tu recevras la voiture qui te convient sous peu. Ce qui fait que les synchronicités, les clins d'œil de la vie se mettent en place et il y a beaucoup plus de chances donc de recevoir, d'accueillir cette voiture dans notre vie. Voilà, c'est un peu dans ce sens.
Extra. Et alors, tu me disais aussi que tout était question de perception, chose, concept pour laquelle je suis très d'accord, mais peux-tu expliquer ça?
Oui, j'aimerais prendre l'exemple le plus facile. Je pense que tout le monde a déjà entendu, le verre est-il à moitié plein ou est-il à moitié vide? Et c'est tellement important, c'est tellement vrai. Le regard que nous déposons sur ce qui est là dans notre vie, ce que nous vivons, ce que nous ressentons, ce que nous avons comme expérience dans le concret. Ce regard positif et riche est très important, donc de voir le verre à moitié plein. Même s'il y a des éléments peut-être un peu difficiles, inconfortables ou souffrants, il est important de ne pas les percevoir comme une tuile qui nous tombe sur la tête, mais plutôt un élément qui nous permet de nous réaliser encore plus. C'est un regard riche et noble. En fait, c'est une interprétation qui nous permet de vibrer dans cela, donc dans le positif. Alors si j'ai tendance à toujours regarder tout ce qui est là dans ma vie avec cette idée donc du verre qui est à moitié plein, y aller dans le positif et intégrer cela en moi, ça génère beaucoup de beaux tremplins pour aller dans tout ce qui est beau, tout ce qui est riche, tout ce qui est élevé. Et la vie va me redonner encore plus. Donc je pense que tout est dans le regard. Tout est question de perception et ça se vit dans le regard, dans le ressenti. Voilà, donc il est très très important d'intégrer avec beaucoup de détachement et dans le positif et on reçoit encore plus.
Waouh. Alors, et quel est encore un élément que moi je suis assez d'accord avec toi, qui est indispensable comme vibration à avoir pour réussir avant de conclure?
Ah, la gratitude. Comme c'est important. En fait, la gratitude nous permet de vibrer déjà à l'avance dans tout ce qui sera bon. Même si on n'a pas encore reçu, on dit déjà merci. Exemple, l'enfant qui recevra des cadeaux pour le jour de son anniversaire, il est déjà dans la gratitude à l'avance. Il sait qu'il aura toutes sortes de beaux cadeaux, et ça sent la fête à l'intérieur de lui, ça sent la célébration, il y a quelque chose de beau. Et c'est un peu dans ce mouvement de gratitude qu'on peut générer une ouverture magnifique. Donc même si on n'a pas reçu, le fait de s'installer dans la gratitude, c'est très fort, très nourrissant, c'est très créateur. Alors on peut avoir de la gratitude envers ce qui est là pour générer une ouverture. On peut avoir de la gratitude pour la vie, pour l'air que l'on respire, pour l'eau que l'on boit, pour le toit que l'on a au-dessus de notre tête, pour toutes sortes de choses. Et ensuite, on s'installe dans la gratitude qui nous fait vibrer dans cette joie. C'est une gratitude qui est, je dirais, une reconnexion au vrai, en soi. Et je trouve, et je reviens, c'est le seul mot qui me revient, je reviens encore à cette célébration. C'est une gratitude qui nous amène à la célébration, célébration de notre être, célébration de la vie. Et c'est magnifique parce que dans le courant de gratitude, la vie met en place encore plus de trucs, de cadeaux, de synchronicité. C'est un tremplin merveilleux. Donc juste le fait de dire merci, merci à la vie, merci à soi, merci à l'autre, avec un sourire, donc avec une gratitude qui est issue du cœur, encore une fois, c'est un tremplin merveilleux pour générer toutes sortes de belles choses en direction de notre réalisation de soi.
Waouh, merci pour cette belle petite prose sur la gratitude. Et donc, si tu pouvais résumer en deux mots la clé principale, comment avoir accès à la réussite.
Oui, je pense que pour manifester ce qui nous fait vibrer le plus, pour rejoindre cette réussite et être pile poil là où on se sent appelé, eh bien, il est important de passer par l'être, dans le ressenti, dans le vécu. En fait, j'aime bien dire, nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains, pour nous ramener à cela. Tout passe d'abord et avant tout par l'être. Et quand on se permet de vibrer et d'être, alors ça génère une magie. Et après, on peut aller en direction du faire et fabriquer dans le concret, dans le physique. Je vais vous laisser avec une petite histoire pour que vous puissiez me suivre ici. Alors, il y a longtemps de cela, quand mes enfants étaient jeunes, j'ai dû faire le chemin en voiture Montréal-Québec. C'est environ 2h30. Sauf que avoir les deux petits en arrière sur la banquette et étant déjà fatiguée, je savais que c'était un défi pour moi de faire le voyage. J'appréhendais les enfants qui pleurent et puis j'étais dans un espace déjà même peut-être lourd et négatif. Alors, on commence le voyage et évidemment, ça se met à pleurer en arrière. Alors je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour les apaiser et calmer tout ça de façon à ce que je puisse me trouver dans un espace bien pour continuer mon voyage, pour conduire jusqu'à Québec. Alors je me suis dit, je vais arrêter au McDonald's, leur acheter une bouffe et puis le petit jouet et puis bon voilà, et ça va les garder occupés. Alors ici, suivez-moi, je suis dans le fer. Alors le McDonald's, le petit jouet, la bouffe, ça pas donné grand chose, en fait ça a tourné encore plus au gâchis parce que il y a eu la bisbille, elle m'a pris ma frite et puis elle veut pas me prêter son jouet et puis bon là ça finissait plus, c'est encore pire. Alors pour faire une histoire courte, je me suis bien rendu compte que rien n'allait, j'étais crispée, je conduisais tendue et je n'étais pas du tout à ma place, centrée, dans ma justesse. C'est là que j'en suis venue à cet élément tellement important. L'être. Et je me suis dit, mais ok, très bien, dans le faire, j'y suis pas, là, j'arrive pas. Je ne génère que de la lourdeur, finalement, entre moi et les enfants. Et je me sens toute tendue. Donc, dans l'être, j'ai décidé d'être en paix, de générer cette douceur et cette paix en moi. Alors, encore dans ce choix, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai décidé de prendre de grandes respirations, ouvrir la fenêtre, mettre de la musique qui était joyeuse et me voir, donc me visualiser entourée de lumière et me sentir en paix, me sentir dans un espace doux, me sentir bien. Et j'ai fait le choix, donc j'ai été le chercher, je l'ai fabriqué. Et j'ai laissé les enfants s'exprimer et vivre leur truc en arrière. Donc je me suis détachée de ça et j'étais en paix. Ça m'a pris un petit moment, mais j'y suis arrivée. J'ai réussi à me décrocher un petit sourire, et tout ça en conduisant. Jusqu'à ce que tout d'un coup, je m'aperçoive que j'entends plus rien en arrière. Eh ben, les enfants s'étaient endormis. Ce qui fait que j'ai continué mon bout de chemin. Le restant du voyage, tout s'est très très bien passé. Ils ont dormi tout le temps. Et je suis arrivée là-bas, reposée, détendue et très bien. Donc, morale de l'histoire, en générant l'être, en l'intégrant et en le vivant, en le diffusant, alors le faire se met en place tout seul. Les enfants se sont endormis. Et voilà.
Tout à fait, jolie histoire pour clôturer cette conférence. Je te remercie infiniment, José. Je remercie à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés.
Ça m'a fait un très très grand plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci. Au revoir.
Au revoir.